Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Début janvier, le journal L'Humanité sollicitait quelques auteurs de fiction pour leur soumettre un exercice d'anticipation politique. À quoi pourrait ressembler l'État du futur? En réponse à cette question, voici un extrait de la nouvelle proposée par Marianne Ferrand. Tout a commencé en 2056. Depuis qu'ils avaient réussi à monopoliser les droits d'accès à Internet grâce à un savant algorithme pirate, le club des starters s'était approprié le droit de vote des citoyens. Les hommes politiques avaient pris la fuite. Gouvernés par des jeunes dynamiques et connectés, représentés par des robots infaillibles, la nation française était appelée à un très bel avenir. Alors si l'on devait adresser une seule critique à cette nouvelle, ce serait à propos de la date choisie. 2056, un horizon trop tardif, car la perspective d'un État et donc de décisions politiques livrées à la seule autorité de programmes informatiques n'est peut-être pas si lointaine. Notre refus de l'incertitude, notre demande de rationalité ne vont-ils pas très vite nous conduire à faire le choix de décideurs politiquement neutres parce que dénués de toute passion humaine? Alors faut-il confier le droit de vote aux algorithmes? C'est la question étrange que nous allons poser ce soir à trois invités. Clémence Penn, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable de la stratégie numérique à la mairie de Paris. Vous présidez le forum Personnel Démocratie France, forum qui réfléchit aux évolutions de la politique en ces temps de révolution numérique. Pour discuter avec vous, elle est en duplex des studios de Radio France à Bruxelles. Antoinette Rouvroy, bonsoir. Est-ce que nous avons Antoinette Rouvroy à Bruxelles? Je ne l'entends pas. Alors, on va passer à notre troisième invité en essayant de la récupérer. Pierre-Henri Tavoyot, bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe, vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne. Vous avez publié en 2015, donc chez Odile Jacob, L'abeille et le philosophe. Et puis, un peu plus anciennement, aux éditions Grasset en 2011, Qui doit gouverner? Est-ce que Antoinette Rouvroy est à nouveau avec nous? Oui, ça y est, on vous
Allô,
entend.
Bonsoir.
J'en étais aux présentations. Donc, vous n'avez rien raté, Antoinette Rouvroy. Vous êtes juriste. Vous êtes donc à Bruxelles dans les studios de Radio France. Vous êtes chercheuse en droit à l'université de Namur en Belgique et vous êtes à l'origine de la notion de gouvernementalité algorithmique sur laquelle nous allons avoir l'occasion de revenir. Je voudrais d'abord vous livrer et vous faire participer, donc tous les trois, un petit exercice d'anticipation inspiré donc de cette nouvelle que je citais au début de l'émission, d'un futur où nous n'aurions plus besoin de voter parce que la gestion des affaires publiques serait confiée à des programmes informatiques qui pourraient ajuster leurs décisions en permanence. Est-ce que c'est une hypothèse qui vous paraît totalement farfelue, Clémence Penn?
Totalement farfelue, non, parce que c'est en ce moment, à la mairie de Paris, au gouvernement, des thématiques qui sont très portées et l'idée d'une gouvernementalité plus efficace, plus rationnelle, plus économe, c'est quelque chose vers lequel on tend tous.
En tout cas, est-ce qu'on peut dire que si intellectuellement c'est concevable, ça l'est aussi techniquement? Ce qui sont a priori les deux conditions pour que ça puisse avoir lieu.
Il faudrait toujours qu'on se mette d'accord sur le prestataire qui nous fournirait les algorithmes.
Oui, ce qui n'est pas forcément le plus facile. Mais enfin, en tout cas, s'il y avait un accord, ça serait possible.
Techniquement, ouais.
Antoinette Rouvroy.
Alors, je ne doute pas que cette perspective recueille un certain enthousiasme dans certains cercles, dans la mesure où ça paraît effectivement relativement révolutionnaire, hein, un mode de gouvernance algorithmique qui serait enfin émancipé de tous les biais de la représentation humaine, les biais politiques, tous les biais qu'on peut imaginer. C'est effectivement très tentant. Est-ce que c'est faisable? Bien sûr, c'est faisable à condition de renoncer à la politique, de se dire que nous ne ferons plus de la politique, nous optimiserons de l'état de fait, y compris des états de fait tout à fait insoutenables. Donc oui, malheureusement, je pense que c'est envisageable et ça changerait radicalement la manière de ne pas faire société. En fait, ce serait un absolu non-projet de société. Ça permettrait de la prédiction sans projet plutôt que du projet sans prédiction. Donc c'est vraiment une inversion totale de l'idée qu'on a encore aujourd'hui de ce qu'est la politique.
Pierre-Henri Tavoyau, est-ce que le fait que ce soit envisageable, et simplement envisageable, sans que ce soit forcément souhaitable, oblige en tout cas à réfléchir à cette hypothèse ?
Alors, je crois qu'il faut garder un petit peu de sang-froid. Il me semble qu'il y a beaucoup de crans d'arrêt à ce type d'évolution qui sont présentes en démocratie. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant de prendre ça comme une hypothèse de travail. Mais voilà, il y a beaucoup d'éléments qui vont bloquer cette affaire. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une véritable tendance possible qui vient vraiment du problème démocratique. Si on définit la démocratie, si on définit la démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, la question qui a un abîme de réflexion, c'est qui est le peuple ? Et la grande tendance, la grande tentation, c'est en effet de dire que ce peuple, dont on ne sait pas très bien qui il est, toute espèce de gouvernement risque de l'opprimer. Et donc, si on pouvait se passer de gouvernement, ça marcherait beaucoup mieux. Et donc, on commence à envisager un gouvernement qui serait totalement mécanique. Ou d'une certaine façon, le peuple, comme un cerveau en fait, sans conflit, sans débat, sans délibération, arriverait à une position consensuelle qui serait la démocratie parfaite. Et on a ce rêve. Je crois que ce rêve est une profonde illusion. Parce que comme le disait Antoinette Rouvroy, effectivement, ce serait renoncer à la politique. Si on avait ce modèle algorithmique, il n'y aurait plus besoin de démocratie. Voilà. Et c'est là où effectivement, c'est en même temps à la fois une tentation et une contradiction.
Et si ce renoncement permettait d'avoir des décisions politiques qui soient beaucoup plus rationnelles qu'elles ne le sont aujourd'hui, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de renoncer à la politique ? Mais les algorithmes sont-ils dans la rationalité, Clémence Penne ? Parce que c'est aussi une des questions qu'il faut se poser avant de voir si cet avenir envisageable est aussi un avenir souhaitable.
Alors, ça dépend. Il y a algorithme et algorithme. Si on parle... Ça dépend vraiment des datas qu'on manipule. Et par exemple, à la mairie de Paris, au quotidien, notre façon de gouverner par la data science, elle est encore très expérimentale et on en est au tout début. Hein. Donc, on va par exemple utiliser des datas pour réussir à mettre au point le meilleur modèle pour le stationnement et réussir à élaborer des corrélations pour voir dans quelle rue il y a des places de stationnement manquant. Donc, on est quand même très très loin de la gouvernance de la prédpol, les politiques de prédiction et de la science-fiction ou du texte que vous avez lu tout à l'heure.
Les datas, d'ailleurs, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi les questions sur ces sujets depuis les 20 dernières années, que ce sont les données. Mais sur la question de la rationalité, en tout cas, est-ce qu'on peut dire que c'est une aide à la prise de décision rationnelle en politique pour vous, Clémence Penne, qui êtes plutôt, vous disiez juste avant, excusez-moi, plutôt dans l'enthousiasme, on va dire, vis-à-vis de ces nouvelles technologies.
Une aide à la rationalité, c'est sûr. J'assume mon rôle, mais néanmoins avec énormément d'interventions humaines dans la décision, avant, après, c'est bien parce qu'il y a une volonté politique très très forte qu'on a introduit des outils comme ça, que c'est possible d'introduire même juste de l'innovation en politique, et donc quelque part, ça reste quand même un choix très politique en soi d'avoir délégué ce choix.
Antoinette Rouvroy, est-ce qu'on est dans une forme d'illusion, à votre avis, en pensant que ce sont des outils qui vont permettre d'avoir des décisions politiques plus rationnelles, plus neutres, plus objectives ? Ce ne sont pas des termes qui veulent tout à fait dire la même chose, mais qui sont en général aussi utilisés quand on imagine l'usage qui peut être fait de ces algorithmes et de ces programmes informatiques.
Alors c'est un très grand paradoxe que l'on veuille s'en remettre à des algorithmes qui finalement fonctionnent sur une logique purement inductive et donc oublieuse en quelque sorte des ambitions de la rationalité moderne qui visait à relier les phénomènes à leurs causes au profit d'une rationalité purement statistique, donc purement inductive, qu'on pourrait dire un peu post-moderne, complètement oublieuse des causes. Les données elles-mêmes qu'on va utiliser, qui sont métabolisées par ces algorithmes, sont bien souvent amnésiques des conditions de leur production. Et donc, finalement, elles s'enregistrent comme si elles étaient des faits, mais des faits qui sont expurgés de toute leur contingence, des faits qui sont expurgés de toutes les conditions qui les ont faites advenir. Et donc, c'est une rationalité bien appauvrie à laquelle on peut avoir affaire. C'est donc, en fait, une rationalité en quelque sorte irrationnelle. Je parlerai davantage d'une sorte d'objectivité purement machinique, un sentiment d'objectivité qui vient simplement du fait que l'intervention humaine ou que l'interprétation humaine, l'évaluation humaine se trouve fortement en retrait au profit donc d'un pur calcul quantitatif, c'est-à-dire d'une détection automatique en général de formes de corrélation statistique. Alors on est évidemment bien loin de l'idée de la rationalité ici, c'est exactement l'inverse. Il me semble que c'est plutôt le règne de l'irrationalité, une irrationalité qui en plus elle peut être très fortement biaisée par le fait que les algorithmes, bien qu'ils paraissent complètement objectifs, sont paramétrés. Ils contiennent les visions du monde, ils mettent en œuvre les visions du monde de leurs concepteurs, même si de plus en plus ils deviennent auto-apprenants et donc s'émancipent un peu de leurs concepteurs. Bref, il ne s'agit pas d'une rationalisation, il s'agit de méthodes d'accélération de la transformation de données brutes sous une forme de savoir opérationnel. Il s'agit donc d'optimisation.
Vous êtes d'accord avec ça, Clément Spen? C'est-à-dire, on peut pas vraiment parler d'une neutralité politique des algorithmes, parce qu'à partir du moment où ils sont produits et pensés par des humains, c'est qu'il y a forcément derrière un projet qui ne peut pas se prévaloir de neutralité, d'objectivité.
Sûrement, mais ce qui me gêne un petit peu quand j'écoute Antoinette Rouvroy, c'est simplement de quels algorithmes on parle en fait. Parce qu'entre l'algorithme de Facebook qui gère notre newsfeed, l'algorithme de la campagne de Donald Trump, l'algorithme qui rend tel dispositif gouvernemental plus efficace, ou l'algorithme de discrimination à l'embauche, ou l'algorithme qui fait de vous un terroriste ou pas, c'est quand même des intentions très très différentes, quoi. Et je sais pas si elles sont comparables.
Mais si elles sont différentes, ça veut dire qu'il y a quand même forcément toujours une intention derrière un algorithme.
Oui.
Qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative.
Pour sûr.
Donc l'humain ne peut pas être totalement écarté. Donc notre hypothèse de départ, Pierre-Henri Tavoyot, la voici qui se délite petit à petit au fil de la conversation.
Non, l'humain n'est pas complètement écarté, mais il y a la question qui était bien posée par Dominique Cardon, c'est que l'humain n'est pas exclu, mais au bout d'un moment, il ne comprend plus ce qu'il a lui-même produit. C'est le mythe de l'apprenti sorcier, c'est-à-dire que c'est devenu tellement compliqué à intégrer, c'est-à-dire la manière dont les données sont collectées, l'ampleur des calculs qui sont mises en œuvre, que d'une certaine manière, certes, on est à la source des choses, mais on ne comprend plus les résultats. Mais je crois qu'il faut bien distinguer, en effet, les usages que l'on peut faire, parce que il me semble comme ça, mais sous réserve d'inventaire et sans être nécessairement exhaustive, vous me corrigerez, il y a un premier usage des data, c'est gagner des élections, c'est arriver à faire un discours qui soit susceptible de gagner les élections, c'est-à-dire de coller au plus près de ce que veut le peuple. Et en un sens, c'est une mission démocratique. C'est-à-dire, alors ça peut être populiste, je ne sais pas, mais en tout cas de dire, voilà, on va connaître l'intention, la volonté du peuple, même si c'est très illusoire, parce que, comme toujours, les calculs dépendent de ceux qui les conçoivent. Il y a un deuxième usage, c'est effectivement la prise de décision. C'est-à-dire, en effet, comment la connaissance produite par les algorithmes, par les données, s'inscrit dans la continuité de la raison statistique, même s'il y a des très profonde distinction entre l'état statistique et ce que les algorithmes permettent. Donc, prise de décision. Et troisièmement, il y a la question de sécurité, c'est-à-dire assurer l'ordre et comment, effectivement, grâce aux surveillances, on a une démultiplication positive ou négative. On peut considérer que c'est terrible ou que c'est très positif, mais une démultiplication du contrôle d'une société sur elle-même et d'éviter les déviants. Donc, je crois qu'il y a trois usages. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, effectivement, en fonction de ces trois usages, c'est trois débats différents.
Antoinette Rouvroy.
Alors, bien évidemment, il y a différentes sortes d'algorithmes. Moi, les algorithmes que j'avais en tête, c'était les algorithmes qui visent à modéliser la réalité sociale, bien entendu, et donc qui concernent nos comportements en tant qu'êtres humains, nos intentions, éventuellement nos intentions de vote, etc. Mais bien évidemment, il y a différentes sortes d'algorithmes qui permettent aussi de faire du pairage, c'est-à-dire de mettre en relation des personnes avec des entreprises à des fins d'emploi, etc. Il y a toutes sortes d'algorithmes, mais on ne peut pas parler d'algorithmie en général. Toujours est-il que l'aura d'objectivité qui reste attachée et de rationalisation qui reste attachée à ce tournant algorithmique est liée au fait que grâce aux évolutions récentes, notamment du machine learning, du data mining et du machine learning, les catégories à travers lesquelles on perçoit le monde et qui précédemment précédaient la récolte des données dans les traitements statistiques traditionnels, dans les pratiques statistiques traditionnelles, Aujourd'hui, ces catégories, elles ne président pas et elles ne dirigent pas, si vous voulez, la collecte des données, mais elles émanent presque spontanément, hein, par la grâce de l'algorithme, elles émanent des masses de données elles-mêmes. Alors, c'est comme si le savoir, en quelque sorte, ou les catégories qui nous permettent d'accéder ou de construire un savoir, c'est comme si ce savoir n'était plus du tout construit, comme s'il était toujours déjà immanent aux bases de données elles-mêmes.
Ça veut dire, Arta Noët Rouvroy, qu'à un moment donné, il peut y avoir une forme de perte de contrôle sur la façon dont fonctionnent les algorithmes, ce que disait un petit peu précédemment Pierre-Henri Tavoyau, c'est-à-dire on finit par ne plus comprendre très bien ce qu'on a fabriqué, comment ça fonctionne.
Alors, oui, dans la mesure où les algorithmes auto-apprenants et surtout les algorithmes auto-apprenants qui sont de moins en moins supervisés par des êtres humains, s'auto-révisent, si vous voulez, en fonction de ce qui advient, en fonction de ce que le monde suit ou non, ou se conforme ou non aux prédictions. Et donc, un algorithme qui rate sa cible, en quelque sorte, ou un profilage qui rate sa cible, ça ne sera jamais interprété comme une erreur. Il n'y a pas d'erreur dans le monde algorithmique, ça sera interprété comme une occasion de réviser, d'améliorer le système de manière à ce que la prochaine fois la prévision soit meilleure. Donc on a, si vous voulez, une sorte de clôture du numérique sur lui-même et une sorte de normativité qui paraît presque immanente à la vie même. Donc on n'a plus l'impression qu'il s'agit vraiment d'un gouvernement, une normativité immanente qui ne se laisse plus nécessairement déranger par le monde non numérique, par ce qui est non numérique, par ce qui est non numérisable. Et là, c'est quelque chose qui aussi pose d'énormes questions en termes de conception de ce qu'est la politique, de ce qu'est un espace public, à mon sens. Voilà.
Sur la question de savoir si les algorithmes peuvent ou non se tromper, on a sans doute eu un exemple extrêmement intéressant qui peut alimenter la réflexion avec les élections, l'élection présidentielle américaine, Clémence Peine. On avait d'un côté une équipe d'Hillary Clinton qui avait justement une très forte sensibilité, on va dire, à toutes ces questions, qui s'inscrivait dans la continuité de ce qu'avait fait Barack Obama. Ce sont des campagnes que vous avez étudiées de près, où il s'agissait justement alors de cibler au plus près quels électeurs on allait voir et avec quel discours on allait les voir. Et puis en face, un Donald Trump, une équipe de Donald Trump qui était beaucoup plus fouillie, presque dans l'aléatoire. On envoie des messages sans vraiment constater à qui on les envoie. Et finalement, c'est plutôt l'aléatoire qui semble avoir fonctionné plutôt que les algorithmes. En tout cas, est-ce que pour vous, ça remet en cause une partie des croyances peut-être qu'on pouvait avoir dans la vérité que porteraient ces algorithmes?
C'est sûr qu'en ce moment aux États-Unis, c'est la grosse gueule de bois numérique dans les communautés des spécialistes des campagnes. Depuis 2008, il y a eu une très grosse tendance de scientifisation, de rationalisation des campagnes à différentes échelles. Il y a eu toutes les pratiques de ciblage des électeurs d'une part, et puis toutes les prédictions et le ciblage des États, etc. Et là, on voit que les datas se sont plantées sur deux axes. D'une part, sur toutes les prédictions, donc les sondages des journaux, etc., mais aussi les stats internes de la campagne qui, encore à 22h, étaient sûrs qu'en fait, l'un dans l'autre, ils allaient bien gagner l'élection. Et puis d'autre part, sur les datas de mobilisation. Et donc, ça veut dire qu'en fait, même si on a la campagne la plus rationalisée, où on sait qu'en fait, c'est pas... Puisque donc, en gros, toute la logique de campagne d'Obama-Clinton, c'est que c'est pas la peine d'aller parler à tel électeur, parce qu'en fait, il n'y a aucune chance qu'il aille voter. Donc moi, je ne vais m'adresser qu'à cette femme de 50 ans en Floride qui va se déplacer le jour J, etc. Donc... Effectivement, toute cette théorisation qui a d'ailleurs été largement importée en France depuis est remise en question avec la victoire de Donald Trump.
On va dire que ce que vous dites, ça ne plaide pas en tout cas pour confier la totalité des décisions politiques à ces algorithmes.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Alors, faut-il confier le droit de vote aux algorithmes? C'est la question que nous menons ce soir avec Pierre-Henri Tavoyau, philosophe, Antoinette Rouvroy, juriste, et Clémence Peine, responsable de la stratégie numérique à la mairie de Paris. Je voudrais revenir à cette idée d'une aide ou d'un soutien, en tout cas, à la prise de décision que pourraient procurer les algorithmes, une aide pour les décideurs politiques. Mais écoutez d'abord ceci.
Chaque jour, Monsieur le maire réfléchit aux projets qui permettraient d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Il prend en compte le budget restant, des conversations qu'il a avec ses électeurs, des propositions du conseil municipal, ou bien des directives imposées par l'État. Avec ses équipes, il doit prendre des décisions, mais pour cela, il aimerait disposer de plus d'informations, voire se faire aider par des propositions concrètes. Il souhaite également montrer à ses administrés qu'il est attentif à leurs opinions. Avec Fluicity, Monsieur le maire peut dorénavant consulter les citoyens en temps réel, partager avec tous les habitants les projets de la commune, enrichir le débat municipal grâce aux données Fluicity et adapter la prise de décision du conseil, réengager la communauté dans le débat citoyen. Grâce à Fluicity, Monsieur le maire parvient à mettre la technologie à la disposition d'un service public plus efficace et plus collaboratif.
Voilà, c'était un petit peu long, mais c'est l'intégralité d'une petite vidéo qu'on peut trouver très facilement sur Internet. Fluicity, c'est donc le nom d'une application qui vient en aide aux décideurs politiques pour les aider à prendre des décisions rationnelles. C'est ce que dit sa fondatrice, Julie de Pimaudan, basée sur des données statistiques et non plus sur de simples intuitions. Je trouve ça intéressant, des éléments statistiques et non pas de simples intuitions. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'évolution de la politique, c'est aussi une façon d'essayer d'éliminer tout ce qui pourrait relever de l'incertitude, Pierre-Henri Tavoyau?
C'est là aussi une tendance très ancienne. On disait, il faut préférer au gouvernement des hommes le gouvernement des choses. C'était Saint-Simon et c'était déjà il y a très longtemps avec l'idéal de la constitution d'une science politique qui serait effectivement une science qui dépasserait les intuitions. Mais je crois qu'on est dans une situation très différente parce que ce que n'avaient pas prévu les hommes du 19e siècle, c'est que notre problème, c'est pas le savoir. Effectivement, jadis, le savoir, c'était le pouvoir. Aujourd'hui, le problème, c'est la saturation du savoir. C'est-à-dire qu'on est face à un nombre de données, justement, qui sont absolument incommensurables, extrêmement difficiles à interpréter, à hiérarchiser, et que la tâche du politique, précisément, c'est dans ce fatras, dans cette foultitude d'informations, d'arriver à identifier ce qui est important de ce qui est secondaire. Et ça, c'est très difficile. Les algorithmes, d'une certaine façon, n'apportent pas cette réponse. Ils apportent des données, quelques croisements, des éléments, mais il est très difficile, précisément, d'en faire sortir l'optimal, l'optimum. Et c'est ça le problème, je pense, que principal que va poser les data. C'est pas tellement la déduction, en quelque sorte, de la meilleure décision, c'est plus profondément une complexification accrue qui va rendre le pouvoir, d'une certaine façon, d'autant plus important et d'autant plus nécessaire.
On pourrait presque parler, Antoinette Rouvroy, d'une forme de coalition entre les données, le big data, et puis les algorithmes qui sont censés aider, en tout cas, à faire le tri, à traiter ces informations, c'est-à-dire l'un entretient l'autre, crée de l'incertitude au niveau de la politique et finalement joue contre la politique.
Oui, elle joue contre la politique d'une manière à nouveau très ambivalente et très paradoxale. C'est-à-dire que l'objectif prioritaire ou la cible de ce que j'ai appelé la gouvernementalité algorithmique, c'est précisément l'incertitude comme telle. C'est-à-dire l'excès du possible sur tous les calculs qu'on peut faire de la probabilité. Cette incertitude comme telle, c'est bien le lieu même où traditionnellement on fait de la politique. L'espace politique, l'espace public, est l'espace dans lequel nous sommes exposés à des choses qui n'ont pas été prévues pour nous. C'est l'espace dans lequel nous débattons collectivement de la chose publique, non rabattue sur la seule concurrence des intérêts privés qui, eux, sont bien connus. Et vous voyez, c'est finalement ce que font les algorithmes, ce que voient les algorithmes à travers toutes ces données sur lesquelles ils naviguent. Ils ne voient rien du tout. Ils défendent nos images, mais en même temps, ils ouvrent de nouveaux espaces. Les espaces que j'ai appelés des espaces-temps potentiels, c'est-à-dire en faisant de la prédiction ou en nous donnant l'impression qu'on peut prédire tout ce qui va advenir, on permet aux décideurs non plus de décider, mais de suivre le résultat d'un calcul de manière à faire en sorte que ce qui est devenu prédictible advienne à coup sûr ou que au contraire ça n'advienne sous aucun prétexte. Et donc finalement c'est une sorte d'anticipation en temps réel. C'est toujours cette obsession gestion du temps réel, une anticipation, une optimisation en temps réel qui véritablement bannit toute possibilité de débat public.
Est-ce qu'il vous fait dire, j'ai vu ça dans une interview que vous donniez à Mediapart, que le politicien devient une figure vide qui a vidé le politique de tout contenu substantiel, il n'est plus qu'un miroir, qu'un reflet. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Clémence Penn, de ce genre d'applications qui sont proposées là, comme soutien à la prise de décision politique, c'est-à-dire à partir de quel, enfin, jusqu'où on peut aller, jusqu'où ça peut rester un outil, à quel moment ces outils-là deviennent presque des conseillers bis du décideur?
Mais... En fait, je voulais réagir parce que dans le cas d'une appli comme Fluicity, mais comme plein d'autres, le paradoxe, c'est qu'effectivement, la petite réclame mentionne une aide à la décision basée sur la data et la rationaliser. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? C'est juste... les data dont on parle, c'est juste un dialogue entre le maire, donc c'est le personnage principal, c'est une vision assez classique de la politique, et puis les data dont on parle, c'est les remontées des citoyens. Et c'est les citoyens qui font... Et donc finalement, ça n'a rien d'algorithmique, c'est... Enfin, on pourrait... Alors là, je ne cible pas du tout Fluicity, mais on en parlait tout à l'heure avec Pierre-Henri, qui saura mieux expliquer, mais c'est plutôt un modèle populiste qu'un modèle qui efface le politique et la décision.
C'est un petit peu ce qu'a fait aussi Emmanuel Macron. Quand il a fait son diagnostic pour la France, il y a eu alors tout un tas d'entretiens qui ont été menés. Il y a 25 000 personnes qui ont accepté de répondre à des questions. Alors, c'était 8 questions, c'était pas beaucoup, mais c'était des questions générales et ouvertes. Et ensuite, il y a eu un traitement par des algorithmes pour essayer de faire ressortir un peu de sens. Et ce que dit d'ailleurs l'agence de stratégie électorale LMP, un de ses membres d'ailleurs était venu il y a quelques mois de cela pour discuter dans notre émission, il dit ça donne une base de citations hallucinante utile pour illustrer un discours. On ne sait plus très bien finalement à quoi sont censés servir ces remontées d'informations, Clémence Penn.
Oui, ça fait plus années 70 que 2056 en tout cas. On va utiliser effectivement les remontées des citoyens comme une illustration.
Le cahier de doléances.
Voilà, alors là-dessus on a, parce que je ne voudrais pas non plus paraître comme très critique sur ces dispositifs, il y a toutes sortes de dispositifs autrement innovants qui s'appuient...
Mais ces données, les données, ou en tout cas les informations qui sont recueillies de votre point de vue, elles devraient servir à quoi? Si elles ne doivent pas servir justement à ce qu'on décrit là. Vous nous dites que ça remonte un peu, c'est les années 70.
Ah mais je trouve ça tout à fait intéressant qu'un maire ou Emmanuel Macron s'intéresse aux remontées des citoyens, les lise et s'y intéresse comme Ségolène Royal en 2006. Je vois juste plus que ça d'algorithmique ou quel est l'intérêt du dispositif numérique
dans le process. Il me semble que l'enjeu, si on peut dire philosophique ou anthropologique ce qu'on est en train de débattre, c'est de savoir si l'algorithme, c'est simplement des statistiques en plus gros, ou si, ce qui est un peu la thèse, je crois, d'Antoinette Rouvroy, si c'est une véritable mutation du regard qu'on a sur le politique. C'est ça, finalement, l'enjeu. Alors, c'est vrai que, personnellement, je pense que l'idée de mutation serait exacte si on en était à la réalité, si tous les freins qu'on évoquait tout à l'heure avaient disparu. Il me semble que c'est peut-être une tendance dont il faut effectivement se méfier, mais que nous disposons pour le moment... ça n'a peut-être pas duré, des moyens d'apprivoiser en fait ces datas pour les mettre potentiellement au service d'une politique, disons, volontariste et non pas d'en être la créature ou l'esclave. Donc c'est ça finalement l'enjeu. Est-ce que c'est quelque chose qui change radicalement la politique et si c'était le cas, en effet, la politique disparaîtrait, soyons clairs, et nous n'aurions plus besoin de citoyens parce que ce seraient des débats qui seraient totalement absents. Avec cette idée, en effet, je pense quelque chose de très important qu'a dit on doit être au froid, c'est qu'il y a une espèce d'idée d'immanence, c'est-à-dire on oublie dans les algorithmes que les opinions, ça peut changer et ça se construit. C'est-à-dire que voilà, une opinion, c'est que pensent les gens en ce moment, mais sans se dire, tiens, ils peuvent changer d'avis, une opinion se construit parce qu'il y a plus d'informations. Et le grand enjeu de la démocratie délibérative, c'est précisément de ne pas prendre l'opinion immédiate, mais de participer à la création d'une opinion collective.
Est-ce qu'il est encore temps, Antoinette Rouvroy, de dompter les algorithmes?
Alors, je pense tout à fait. Moi, je me suis prêtée au jeu de la politique fiction, bien entendu. Et ce que j'ai présenté là, c'était un petit peu une sorte de d'heuristique en quelque sorte, hein, et donc aussi de caricature, bien entendu. Hein.
Ce qui m'intéresse, moi, si pessimiste que ça.
Du tout. En tant que juriste, ce qui m'intéresse, c'est d'aimer le droit. Comment aimer le droit ? En fait, plus je regarde les algorithmes, plus j'aime le droit. Et le droit, précisément. Offre des ressources très importantes pour endiguer le déploiement de cette gouvernementalité algorithmique. Mais je voulais juste rajouter qu'en fait, l'usage de ces algorithmes et l'exploitation des big data, comme on les appelle, ou des données massives, est quelque chose d'absolument intéressant lorsque ces usages des algorithmes nous rendent sensibles à ce qui échappe au sens ordinaire et donc à ce qui pourrait se présenter non pas comme de la pure optimisation possible, comme des opportunités d'accroître l'électorat ou des possibilités d'accroître sa masse de clients, etc., mais comme précisément ce qui pourrait permettre de faire bifurquer l'état de fait vers quelque chose de plus soutenable. Donc ça peut nous rendre attentifs à des possibilités réelles de nouvelles politiques. Hein. Donc,
votre poste d'observation, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, dans la classe politique, pour utiliser un petit peu un terme qui résume un espace qui est beaucoup plus complexe que ça, bien sûr, mais est-ce que dans la classe politique, on a conscience des possibilités qui sont offertes par ces outils, ou bien est-ce qu'on s'en sert plutôt pour des usages un peu traditionnels, de se dire, on va servir des algorithmes pour affiner notre communication politique, mais on en reste au niveau de la communication ?
Alors, je pense d'une part que l'outillage algorithmique paraît comme une manière d'apparaître un peu faussement et bien entendu révolutionnaire. Hein. Donc c'est quelque chose qui est très à la mode de dire qu'on surfe sur les nouvelles technologies. Mais malheureusement, j'ai l'impression que l'imaginaire des politiciens aujourd'hui, s'oriente plutôt vers l'idéal d'un politicien sismographe, du politique qui réagirait sur le mode réflexe au stimuli qui lui sont envoyés à partir de l'Internet, par exemple. Hein. Et ça, c'est très dommage, parce qu'il y aurait d'autres manières d'utiliser ces outils. Je pense qu'il n'est plus extrêmement utile aujourd'hui de se replier vers une figure de l'individu libre, rationnel, autonome, non outillé de ces outils, de ces dispositifs, mais qu'il faut essayer de penser la rationalité humaine. Tous ces outils transforment notre propre cognition, notre propre rationalité. Et il faut essayer de penser notre rationalité d'une manière beaucoup plus composite. Comment devenir plus intelligent, plus créatif, plus imaginatif avec ces outils ? C'est ça l'enjeu. Hein. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que des tendances qu'on détecte vont plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va se servir de ces outils pour déléguer à des agents de plus en plus autonomes informatiques la tâche de créer. Finalement, on sous-traite les tâches réservées à l'imagination à des instruments automatiques. Et là, c'est évidemment très ennuyeux.
Et Clémence Penn, est-ce que vous partagez un petit peu le constat que fait Antoinette Rouvroy justement sur cette utilisation et aussi peut-être sur cette approche que peut avoir le monde politique par rapport à ces outils-là? Vous en côtoyez quand même assez souvent, alors, et à la mairie de Paris, mais aussi à travers le Personnel Démocratie France, donc qui est un forum qui accueille de temps en temps des politiques. Et puis vous avez aussi fait partie du comité d'organisation de, alors je me souviens plus comment ça s'appelait précisément,
l'Open Government Partnership.
Voilà, qui est un événement qui a eu lieu en fin d'année 2016 et qui traitait aussi de ces questions.
Voilà, qui a réuni à Paris toute la communauté Open Data, Civic Tech du monde entier pour réfléchir à la façon d'ouvrir et de moderniser le gouvernement en s'appuyant sur des outils numériques. Non, je trouve ça très intéressant ce que vient juste d'expliquer Antoinette Rouvroy. Je suis tout à fait d'accord avec elle sur le fait que les politiques doivent comprendre ces outils pour pouvoir accompagner ces mutations, pour pouvoir s'en saisir, imaginer, trouver des usages plus créatifs de ces outils. Elle note qu'on délègue aux outils, mais j'ajoute qu'on délègue aussi, du coup, aux prestataires, aux marchés qui nous fournissent ces outils, parce que bien souvent, en fait, c'est pas du tout des compétences qui sont internalisées dans les administrations. parce que c'est pas prioritaire, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on est très loin du règne des algorithmes. Et du coup, finalement, on délègue à des agences extérieures, à des experts, etc. Et c'est pas du tout quelque chose qui est porté par des décideurs politiques, imaginé dans une vue de prospective avec une vision, quoi.
Mais est-ce que ce sont des outils qui, à votre avis, hein, depuis les constats que vous pouvez faire, qui sont vus comme permettant de faire de la politique autrement, ou bien comme des outils qui permettent de continuer de faire de la politique comme avant, pour revenir aux années 70 que vous évoquiez tout à l'heure?
Les deux. Je pense que je vois un grand parallélisme avec ces enquêtes sur le gouverner par les chiffres et sur l'invention de la statistique en politique.
Soupio et autres, Desrosières.
J'ai l'impression qu'on est dans un mouvement très parallèle et en même temps on est aussi du coup sur des usages beaucoup plus agiles où on travaille aussi avec des jeunes ingénieurs, des start-upers, des citoyens, où on co-construit des dispositifs, etc. Et où là par contre on injecte de la créativité dans les dispositifs.
Mais on n'en fait pas vraiment l'objet d'un débat purement politique, Pierre-Henri Tavoyot, de ces questions?
Ce débat a lieu, je pense, il aura lieu sur les questions de sécurité. C'est là où effectivement, par exemple, les écoutes avec des mots-clés qui permettent d'identifier dans les conversations.
Avec la loi sur le renseignement, il y a eu un petit peu ce débat.
Il y a eu un petit peu ce débat, mais et d'ailleurs, peut-être le fait que ce débat n'ait pas eu davantage lieu, ou plus exactement le fait que finalement, dans un contexte d'insécurité ou d'attentats, de terrorisme, de menaces terroristes, disons l'ensemble de la société considère que c'était légitime de progresser sur ces questions et de multiplier les indications d'alerte. Ce qui évidemment serait très dangereux, c'est qu'il y ait une automatisation entre l'alerte et la sanction. C'est-à-dire que sans contrôle humain, on passe du repérage d'un visage à sa neutralisation, comme on dit. Là, effectivement, ce sera extrêmement problématique. Certains disent que ça a déjà eu. C'est déjà le cas actuellement avec des prises de décision, notamment au niveau des drones. J'en suis pas persuadé, mais en tout cas, voilà. Il me semble qu'il y a dans un contexte, un progrès du contrôle, dans une situation de sécurité qui me paraît effectivement faire l'objet d'un consensus dans la société.
Antoinette Rouvroy, vous avez une minute pour conclure.
Oui, alors sur ce qui vient d'être dit, oui. Effectivement, c'est tout l'enjeu de la préemption, et c'est vraiment l'exemple sécuritaire est un très bon exemple, et c'est un exemple qui peut être étendu à d'autres domaines que la sécurité. La préemption consiste effectivement à ouvrir, à rendre accessible à l'action ce qui n'existe pas encore dans le présent. Hein, c'est un espace de possibilités ou de potentialités qu'on rend présent et sur lequel on agit par avance. La possibilité que vous soyez terroriste va faire que vous devenez une cible pour un drone. Finalement, c'est une belle illustration de la clôture, donc de la clôture du présent sur lui-même et de ce qu'opère réellement la gouvernementalité algorithmique sur le temps. C'est-à-dire que c'est une aspiration à la fois du passé, toutes les traces passées, mais aussi de l'avenir, c'est-à-dire de tout votre advenir possible dans l'actualité pure, le pur présent, et on fait advenir par avance ce qui n'est que possible.
Voilà, c'est une belle illustration, et c'est même une excellente transition que vous nous offrez pour annoncer l'émission de demain à partir de 18h20, puisque Dugrin Mout posera la question suivante. Terroriste un jour, terroriste toujours. Voilà, on sera quand même dans la continuité de cette fin de discussion. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'y avoir participé. Clémence Penn, Antoinette Rouvroy et Pierre-Henri Tavoyot. Je précise que l'extrait de la nouvelle que j'ai lu au début, vous pouvez la retrouver dans son intégralité dans un ouvrage publié aux éditions Latengo, en novembre dernier, 2056. Quel état, 10 nouvelles pour imaginer le monde qui vient. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Cyril Baer, émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Pierrick Monsigny.